un podcast France Culture.
Réparer le monde, se réparer soi-même. À l'occasion des 15 ans du festival Terre et Lettres de La Rochelle, dont la prochaine édition a pour thème « D'autres imaginaires pour mieux habiter la Terre », nous regardons du côté de la littérature qui, grâce à certaines plumes, appelle à un réveil des humains pour en finir avec l'anthropocentrisme et tracer les chemins d'un monde plus désirable et plus respectueux du vivant. Avec nous, Xavier de Cateux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur, ancien rédacteur en chef, on l'est toujours hein, dans l'âme finalement, oui. Ancien rédacteur en chef de l'agence France Presse et président du festival Terre et Lettres en partenariat cette année avec France Culture et à vos côtés deux autrices qui livrent leur quête de sens et de vérité, d'espoir et d'humanité et qui ouvrent de nouveaux chemins pour réinventer notre façon d'habiter le monde et de vivre en harmonie avec les animaux. Isabelle Sorante.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes romancière, autrice notamment du complexe de la sorcière, de La femme et l'oiseau. Et le dernier paru chez Jean-Claude Lattès s'intitule L'instruction. On vous doit aussi la collection Bestiale chez le même éditeur où chaque auteur, autrice parle d'un animal. Le dernier sorti, c'est Ovidie.
Oui, c'est Assise debout couchée où Ovidie relie les rapports avec les chiens et la domination masculine des femmes. Les chiens comme alliés des femmes.
Ah, formidable. Et Corinne Pelluchon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée, professeure à l'université Gustave Eiffel, auteur de nombreux livres. Alors on va en mentionner quatre incontournables pour le thème qui nous anime ce soir. Le manifeste animaliste politiser la cause animale, édité chez Rivage. Réparons le monde, humain, animaux, nature, toujours chez Rivage. Les Lumières à l'âge du vivant, un livre édité au Seuil. Et puis le dernier, L'espérance ou la traversée de l'impossible, édité chez Rivage. Et puis dans l'œil du monde planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Harold Thibault, correspondant du Monde en Chine à Pékin, nous parlera des conséquences désastreuses de l'hiver particulièrement rigoureux sur les nomades de la Mongolie. Bienvenue à toutes et à tous. Vous en avez l'habitude, c'est votre magazine de l'environnement sur France Culture, en direct, préparé par Anaï Morales et Sandrine Chaperon, avec Vanessa Chang et les équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Élise Le. Xavier de Cateux, on va démarrer tout naturellement avec vous parce que le festival Terre et Lettres, Terre au singulier, Lettres au pluriel, fête ses 15 ans. Il aura lieu du 2 au 5 mai prochain à La Rochelle. Alors dites-nous, qui en a été l'initiateur et est-ce que les ambitions de départ sont toujours les mêmes?
Oui, alors c'est un festival qui a été créé en 2009. Par un groupe d'amis Rochelais et à l'initiative d'une ancienne journaliste de France Inter et même, je crois, de France Culture, Dominique Agnel, qui a présidé aux destinées du festival jusqu'en 2017-2018, au moment auquel moi j'ai repris la direction puisqu'elle est allée vivre en Bretagne.
Bon.
Et donc le festival, comme il se dénomme, c'est la rencontre des acteurs et des auteurs de l'écologie. Donc ça a toujours été d'inviter. Au début, c'était plutôt des essayistes, documentaristes, témoins qui nous informaient sur les graves crises écologiques, environnementales, qui montraient aussi des pistes de bifurcation, comme on dit maintenant. Et puis, on a élargi le festival, on a créé des ateliers sensoriels, parce qu'on s'est dit que pour pouvoir changer nos façons de vivre, il faut aussi faire l'expérience, alors l'expérience de la nature. Et puis, on a ouvert un peu plus à la littérature, à la fiction, parce que nous pensons que c'est aussi, comme c'est le titre du festival cette année, c'est une manière d'élargir, de découvrir de nouveaux imaginaires qui nous permettent de penser le monde qui doit advenir.
Et donc avec vraiment une offre formidable pour le public, des activités, des rencontres, des ateliers proposés, des projections de films, des masterclass. On voit bien que le festival, effectivement, d'année en année, a pris de l'ampleur avec un public toujours plus nombreux.
Oui, diversifié surtout. L'objectif, ça a été de diversifier les publics. Par exemple, cette année, on fait un espace manga. pour essayer d'atteindre des adolescents. Mmh. On présente deux mangas où, dont les héroïnes s'emploient à préserver le vivant, et donc il y aura un atelier manga. Donc on a accueilli la bande dessinée il y a quelques années. Donc on essaye de diversifier pour pas rester sur des publics militants, mais des publics qui sont réceptifs et sensibles aux questions que l'on traite.
Alors Isabelle Sorrent et Corinne Peluchon, comment est-ce que vous regardez, vous, justement, cette évolution en matière d'édition et d'attente du public ?
Je vais Isabelle Sorrent. Oui. En fait, moi, je crois qu'il y a aussi la question du langage, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui empoisonné par un langage technocratique qui gèle totalement les émotions et les affects, et c'est uniquement quand nos émotions et nos affects sont touchés. Donc la fiction peut évidemment y contribuer, la philosophie aussi, surtout telle que l'écrit Corinne, mais c'est de résister en disant non, le langage technicien, le langage économique n'a pas le privilège de décrire la réalité. Et c'est même un langage insuffisant pour décrire la grande réalité.
Voilà. Et vous savez de quoi vous parlez, parce que vous êtes physicienne de formation, polytechnicienne.
C'est il y a longtemps. Mais c'est vrai que je suis tournée vers la... Je pense que le langage poétique et romanesque doit être défendu. Surtout aujourd'hui, parce que on est dans une espèce de, de langage totalitaire qui en fait empêche de décrire les conséquences dramatiques qu'il y a aujourd'hui sur l'environnement. On peut pas les décrire juste économiquement.
Corinne Peluchon.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'il y a malgré tout des contradictions dans notre époque, puisque cette conscience des choses et ces informations dont nous disposons, eh bien, ne sont pas suivies de changements substantiels dans les styles de vie comme dans l'orientation de l'économie. Et cet écart entre la théorie et la pratique est sans doute l'un des défis les plus grands à relever. C'est pourquoi, effectivement, une réflexion sur l'éthique comme transformation de soi qui engage bien sûr les représentations, mais également la manière dont elles changent les affects, les aspirations, et une réflexion sur le rapport au monde et le rapport à soi, ce lien là, et bien qui est au cœur d'ailleurs de toutes les rencontres à La Rochelle, doit être mise en avant. Effectivement, l'écologie, ce n'est pas seulement des réglementations juridiques et économiques, même si elles sont importantes parce que c'est des leviers de la transformation économique et du modèle de développement, mais c'est aussi une réflexion existentielle, une manière d'être avec le monde. Et c'est vrai que la question écologique travaille nos limites. L'acceptation des limites de la planète et l'acceptation des limites que nous devons assigner à notre bon droit au nom des droits des autres, humains et autres qu'humains exister. Donc ça, c'est vrai que la littérature, la philosophie, toutes ces créations symboliques visent à, pas seulement donner un imaginaire, mais aussi à faire en sorte que le monde nous parle.
Réflexion existentielle, hein, vous soulevez ce mot-là. On voit bien que les défis climatiques et environnementaux à relever aboutissent à au-delà de la réflexion, même à des situations d'éco-anxiété, de mal-être. On estime que 20 à 25% hein, des jeunes, notamment, seraient touchés par l'éco-anxiété, autrement appelée solastalgie, et les burn-out qui progressent en nombre. Personnellement, toutes les deux, à quel moment est-ce que vous avez perçu que ce moment, justement, était arrivé pour vous ? Isabelle Sorrent.
Le moment, je dirais, du burn-out, pour moi, a coïncidé. En fait, le mot, je trouvais incroyable qu'on le traduise pas. Si on le traduisait, on dirait « qu'est-ce qui brûle, en fait ? Il y a quelque chose qui est en train de brûler. » Moi, mon esprit, ma motivation, ma joie.
Mon âme.
Et justement, je trouve que le fait de garder les mots anglais, c'est une manière de un petit peu désamorcer la charge tragique et puis aussi la synchronicité entre le fait que la planète soit en train de brûler et que nous-mêmes, on se brûle. On brûle notre âme. J'aime bien dire ces mots qui gênent les rationalistes. et du coup, c'est là, moi, où je me suis rendu compte que tout était relié. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul esprit. c'est le même esprit qui va promouvoir la culture intensive du sol, par exemple, c'est le même esprit qui va promouvoir la fatigue, le fait d'être dans une course, etc. Et du coup, l'écologie, c'est aussi peut-être le développement durable de son esprit, le développement durable de son corps, le développement durable de son âme. Et qu'est-ce que est durable, mais dans un sens très très long terme, c'est-à-dire d'essayer de voir quel est le sens, où est l'infini. Et moi, ces questions-là ont été très importantes pour moi.
Alors, je vais citer quelques-unes de vos phrases que l'on trouve dans votre livre « L'instruction ». « Le sentiment de devenir indifférente à ma propre existence », écrivez-vous, « se sentir zombie, ne plus maîtriser sa vie, son rythme », c'est ce que vous nous donnez à comprendre. « Je cours sans arrêt, je cours, même quand je suis assise, surtout quand je suis assise derrière un écran, je n'arrête pas de courir ». Vous questionnez aussi les mots, les mots « activité »,« proactive », ces mots qui font partie de la société du travail d'aujourd'hui. Et vous dites, je travaille beaucoup, vu de loin j'ai de la chance, vu de près je bosse 60 heures par semaine. Et là vous parlez de la lassitude, des larmes faciles, de se sentir à sa place nulle part et de cette vie de bête de somme, vous et votre compagnon.
Oui, tout à fait, c'est ce qui va me conduire, conduire la narratrice, mais qui est très très proche de moi, à pratiquer cette instruction où on se met à la place d'un animal conduit à la mort et en particulier d'une bête de somme à laquelle je m'identifie et à laquelle après être rentrée dans les élevages, dans les structures de production animale parce que c'est pas vraiment des élevages et dans les abattoirs, je m'identifie finalement encore plus parce que là on voit des grandes foules d'animaux qui courent et qui n'ont pas d'autre choix et qui vont courir vers la mort. Simplement, et c'est important de le dire, dans la pratique de cette instruction qui est même pas d'ailleurs, donc se mettre à la place d'un animal conduit à la mort pour trouver l'éveil, n'est même pas une instruction bouddhiste. C'est en réalité une instruction pré-bouddhiste de tradition qui était très chamanique au Tibet. Eh bien, en fait, il y a quelque chose, et c'est important, je dirais, c'est peut-être pas de joyeux, mais je dirais de source d'intégrité, de source d'optimisme. Alors, d'optimisme tragique à la Viktor Frankl, mais quand même de source de force, parce que on casse cette chape de mots gris qui nous entoure en permanence. Tout à l'heure, vous parliez d'éco-anxiété, qui est encore, je pense, un mot gris, parce que derrière, il y a un sens du tragique. Il y a, oui, la planète est en train de flamber, c'est quand même un peu la moindre des choses qu'on soit légèrement anxieux. Donc, il y a des mots qui sont enterrés comme sous une pellicule grise. Et quand on pratique ce genre d'instruction, eh bien, il y a peut-être une forme de joie, non pas de joie. Évidemment, c'est il y a une forme de descente aux enfers, mais dans toute descente, il y a une remontée. Il y a quelque chose qui renaît, et ce qui renaît, c'est notre connexion. Et je crois que le retrouver une connexion au monde sauvage, au monde vivant, aux animaux souffrants qui sont enfermés dans ces villes animales qui sont aussi grosses que nos villes, eh bien, ça donne une force que le déni ne donnera jamais. C'est important, parce que sinon, on pourrait se dire « Ah, j'ai peur, j'aime les animaux, j'ai pas envie de voir ça ». C'est une erreur. Le déni ne donne pas de force.
Corinne Pellichon, ça résonne en vous,
Oui. Oui, mais avec quand même quelques différences. C'est-à-dire que, alors effectivement, la modernité, le burn-out et l'aliénation aujourd'hui, son visage, c'est l'accélération, qui est aussi une amplification des flux. Armut Rosa a écrit un gros livre là-dessus, et je pense que c'est tout à fait juste. On peut ajouter aussi que la domination d'autrui et la domination du monde à l'extérieur de soi, de la nature à l'extérieur de soi, est reliée toujours à la domination de notre propre nature et à l'amputation de soi-même. Il est évident qu'il y a une manière de ne pas reconnaître de manière positive sa vulnérabilité, sa finitude. Et ça, c'est ça qui explique aussi le contrôle, la toute-puissance et tout ça. Mais je dirais que par rapport à l'éco-anxiété de choses, effectivement, ces manifestations sont négatives. Sentiment d'impuissance, sentiment d'être bloqué.
De vide intérieur.
Oui, parfois colère. abattement, manque d'énergie, mais elle comporte aussi ces émotions négatives, toujours la possibilité de s'inverser en dégoût de soi, des autres, en tyrannie du bien.
La honte, mais, la culpabilité.
L'origine de l'éco-anxiété, effectivement, c'est l'amour du monde et le vœu que l'humanité soit enfin à la hauteur. Donc il y a quand même cette origine noble, qu'il faut d'ailleurs souligner pour la distinguer des dépressions, lesquelles conduisent à suicide et qui n'ont rien de positif. Enfin, il y a vraiment aussi, je crois, ce qui est intéressant dans l'éco-anxiété, c'est qu'il faut bien métaboliser le fait que les réponses classiques apportées aux problèmes que nous avons ne sont pas suffisantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a tout un remaniement de nos cartes mentales et aussi une manière d'accepter des pertes qui vont venir. Donc, du coup, il faut quand même encaisser cela. Et donc l'éco-anxiété est une étape. La question, quand même, c'est d'en sortir. Et troisième chose, par rapport à la question de la prise de conscience de la souffrance animale, je crois que c'est différent. Mmh. C'est pas l'éco-anxiété. Pour moi, je l'exprime comme une traversée de l'autre côté, le fait de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire d'être avec ceux qui se vident de leur sang. C'est-à-dire que là, il y a un non-retour possible, et pour moi, il n'y a pas de joie possible après cela. C'est un traumatisme constant, total. Je ne vois pas. Alors là, autant je trouve d'abord le livre d'Isabelle magnifique, l'instruction, mais autant je trouve très fort la description de ce qui se passe quand on va auprès d'eux et que justement on abat le déni. Et ce regard de Corée qui est plein de quelque chose, d'un message, autant pour moi, il n'y a absolument pas de réconciliation possible. Mais, et ça c'est très important, je crois, de le dire, quelle que soit la prise de conscience que l'on a du mal, de ce mal-là, quelle que soit la prise de conscience qu'on a des dégradations et du modèle de développement générateur de contre-productivité sociale, quelle que soit aussi la conscience qu'on a de la gravité de la situation politique et géopolitique et de ces espèces de crises orgiaques qu'on a partout avec cette ces mauvaises nouvelles qui réveillent notre angoisse de mort et qui font que les personnes ont tendance à, pour éviter justement de regarder en face leur mortalité, leur petitesse, leur impuissance, courent après des leaders charismatiques et leur font croire qu'ils sont importants. Eh bien, quelle que soit la conscience qu'on a de ça, la grande, le défi, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de le transformer en quelque chose qui soit constructeur. Donc, d'arriver à trouver un fil de vie.
Pour en sortir.
Je ne sais pas, en tout cas, pour en faire quelque chose.
Pour en faire quelque
et
chose.
Et pour ne pas être assiégé constamment par cela et pour ne pas non plus désigner des coupables. Parce qu'on voit bien que plus la prise de conscience des dangers multiples que nous vivons est aiguë, plus les dangers également sont importants et plus les réflexes, j'en ai dit quelques-uns, de crispation, d'idéologie ou d'addiction à la consommation, de présentisme sont également importants. C'est ça le grand paradoxe de notre époque. Et je crois que là, les mots, la narration, tout ça, ça dessert l'étau. Et en fait, c'est ça. La question, c'est comment arriver à respirer encore.
Et je sais qu'il y aura cette espérance dont on va parler qui nous permet justement de respirer encore. On en parlera tout à l'heure, mais auparavant, justement. Alors, Xavier Decatte, je crois que vous voulez réagir. Et ensuite, entrera dans ce monde animal de façon un peu plus précise.
Je pense que l'éco-anxiété, elle vient effectivement du spectacle devant lequel auquel on est confronté, mais qu'elle vient aussi surtout du sentiment d'impuissance. Et je vois qu'on a fait une journée là samedi où on proposait aux gens une journée en pleine nature, à faire des activités qui les mettaient au contact de la nature. Tous ces gens sont des gens qui sont sensibles, tous ces gens sont pour la plupart des gens qui agissent, qui font des choses dans des associations, dans d'autres choses. Et je crois que c'est la seule manière, personnellement pour moi, ce qui me permet de résister à l'éco-anxiété, c'est de faire ce que je fais avec ce festival, parce que je pense que ça sert à quelque chose. Mais si j'étais... Et alors je pense que de rassembler les gens... Colline Serrault, qui était venue au festival, nous avait envoyé un gentil mot après en disant « Je suis arrivé à La Rochelle, claqué, épuisé, je suis rentré à Paris, regonflé à bloc. » Donc, ça fait du bien de se retrouver entre personnes qui veulent agir et qui veulent un autre avenir que ce livre.
Ah oui, en plus, avec ce thème de l'imaginaire, ça me fait penser à une de vos phrases, Isabelle Sorrent, hein, dans le livre « Pourquoi ne voyons-nous pas ?» Alors, au sens, ne voyons pas le réchauffement climatique, les conséquences, parce que nous avons perdu l'habitude d'imaginer, parce que notre imaginaire est affaibli, blessé, mourant. Donc, le conseil qu'on peut donner, effectivement, Xavier Decateux, c'est d'investir le festival pour aller se nourrir de tous ces imaginaires auprès des auteurs, des autrices, des invités pour ce 15e anniversaire.
Oui. Je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que dans l'éco-anxiété, chacun a l'impression d'être seul au monde, à souffrir. Et du coup, le partage des expériences est non seulement important, mais il est également générateur d'action, parce que les personnes aussi voient ce qu'il est possible de faire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, ça et là, de nombreuses initiatives tout à fait encourageantes et pleines de promesses et qui témoignent d'une certaine créativité. Mais évidemment, elles ne sont pas mises en valeur et puis chacun dans son coin. Déjà, la souffrance s'isole, mais en plus, avec l'éco-anxiété, sentiment d'impuissance fait qu'on oublie même que d'autres éprouvent la même chose. Ouais. Et avec le partage, on voit les expériences possibles, mais également on apprend à traduire un petit peu ce que ces émotions négatives recèlent et à les transformer.
Le partage, maître mot également. Alors vous êtes unies toutes les deux, hein, Isabelle Sorrent et Corinne Peluchon, par le sujet de nos relations aux animaux. Hein. Corinne Peluchon, vous parlez de la souffrance des animaux qui a un immense pourquoi. Les animaux sont les premiers à nous enseigner le bien et le mal, ça c'est une de vos phrases, Isabelle Sorrent. Il faut aussi comprendre qu'il y a cette tentative ce besoin hein, aussi de se mettre à la place de quelqu'un ou d'un animal, la fameuse magie sympathique, faculté que l'on retrouve d'ailleurs dans le livre Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, se transporter en pensée à l'intérieur de quelqu'un ou de quelque autre vivant. C'est ce que vous avez vécu, Isabelle Sorrent, à l'âge de 7 ans, lors de la catastrophe de la Mococadis au large de la Bretagne. Je vous propose, avant d'en parler et ensuite de basculer dans le monde, justement, de cette. Comment dites-vous structure? Comment dit-on d'ailleurs structure? Voilà. Écoutez ce reportage diffusé le 17 mars 1978 pour Inter Actu. C'était sur France Inter avec le journaliste Henri Vincent.
Il n'y a aucun doute maintenant, c'est une catastrophe. Nous avons survolé l'épave de la Mococadise à bord d'un super frelon de la Marine nationale pendant plus d'une heure. La marée montante a révélé l'ampleur du désastre. C'est un spectacle désolant qui nous a été offert. Il n'est plus question, bien sûr, de remorquage maintenant, puisque le navire, vous l'avez dit, s'est brisé à la hauteur du château arrière, qui fait un angle d'environ 45 degrés avec la partie avant. Par la blessure béante, on voit s'échapper des flots de pétrole qui, en s'éloignant vers la terre, marbrent la mer de larges coulées brunes. La côte est déjà polluée sur plusieurs kilomètres, de l'est de Port-Sal jusqu'à Port-Spodère. Ce sont évidemment les plages de Port-Sal qui sont les plus touchées. Certaines sont déjà recouvertes d'une épaisse couche noire. Quant au petit port de pêche de Port-Sal, eh bien, il semble être baigné de chocolat liquide.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Isabelle Sorrent, vous avez 7 ans en 1978 lors de ce naufrage, cette marée noire, quand sur l'écran de la télévision familiale, vous assistez à une scène qui ne vous quittera plus jamais.
Plus jamais, ça m'a vraiment fait souvenir. Je crois que c'est à ce moment-là que je comprends dans quel monde je vis. En fait, c'est un oiseau qui doucement se hisse hors de la marée noire et en fait, il essaye de battre des ailes et elles sont tellement engluées qu'il décide de se suicider. Et à ce moment-là, je crois que j'ai ma première expérience, je dirais d'horreur, d'effroi. À la fois ma première expérience du monde, je me dis voilà, c'est là où je suis.
Et c'est-à-dire qu'il replonge en fait dans cette marée noire dont il s'est extrait.
Parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra plus jamais voler. Oui. Et donc il préfère replonger. Et ce moment où il regarde à droite, à gauche, il est complètement perdu, il replonge. J'éclate en sanglots. Et surtout, j'ai l'impression d'être cet oiseau. J'ai l'impression que mon identité n'est pas limitée à cette petite Isabelle assise dans son salon avec ses parents, mais qu'elle est beaucoup plus vaste que ça, et que je suis en l'occurrence aussi cet oiseau. ce sentiment est totalement inoubliable pour moi. C'est-à-dire que là, je l'expérimente. C'est pour ça que c'est le chapitre d'ouverture, je l'appelle Maître Oiseau. Mmh. Parce que, en réalité, bien plus tard, alors avec l'enquête à l'intérieur des élevages et des abattoirs, mais même avec des instructions spirituelles, cet animal m'a appris une vérité profonde sur l'identité et la spiritualité qui est qu'on n'est pas juste une date de naissance, le petit tiré, la date de mort. On n'est pas juste le nom. Il y a eu un moment d'ailleurs où on n'avait même pas de nom avant que nos parents nous déclarent à la mairie. Et on est bien plus vaste que ça. Et c'est là, c'est dans cette magie, parce qu'il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose d'inexplicable à cela. C'est dans cette magie que pour moi est l'espoir. Et c'est finalement cette magie que j'ai suivie toute ma vie. Parce que dans la littérature, on ne fait pas autre chose. On se met à la place d'eux, même quand on imagine des personnages. Et dans la lecture, qui est très liée à l'écriture pour moi, c'est-à-dire, je pense que lire, écrire, c'est comme inspirer, expirer, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quand on lit, on se met à la place aussi. Et c'est cet oiseau qui m'a tout enseigné. Je crois que c'est cet oiseau qui finalement a fait de moi aussi une romancière. Parce que ce sentiment de communion, de se mettre à la place, de m'apercevoir qu'il y avait comme une espèce de saut quantique de ma petite personnalité, ma petite cage, en fait. Et hop, je saute à sa place, même si c'est une place atroce. Eh bien, je crois que toute ma vie, je chercherai à, finalement, lui rendre hommage, à écrire pour restituer ce sentiment d'une identité plus vaste.
Et puis il y a cette structure industrielle, donc hein, élevage de porcs, on dirait, mais comme vous le dites, c'est plus que cela, avec ces images que vous avez en partage, hein, toutes les deux justement, qui peuvent vous réveiller encore la nuit. Ces images qui arrivent suite à cette expérience que vous avez menée. Là aussi, je vous propose d'écouter un autre extrait de reportage avant d'en discuter plus avant. Reportage diffusé sur France 3, avec un reportage tourné dans Lyon le 19 août 2021.
Des nouveau-nés agonisants. Des animaux frappés à coups de tournevis. Ces scènes insoutenables ont été filmées par l'employé d'une porcherie de Lyon. Il a décidé de les rendre publiques et témoigne désormais à visage découvert dans cette vidéo.
Ce qui m'a choqué, c'est voir le responsable mettre des coups de tournevis acharnés sur les truies quand elles ne voulaient pas avancer. Ou alors mettre des coups de barre en ferraille sur la tête.
Près de son ancien lieu de travail, Grégory Boutron raconte des pratiques interdites par la loi.
Il y a eu les piles électriques, comme un taser, et il s'acharnait dessus pour les faire avancer. Et une fois, il y avait une truie, elle ne pouvait plus marcher, et il s'en est servi pour la sortir dehors, donc il a fait 20 mètres, elle hurlait.
Ces vidéos ont été relayées par l'association de protection animale L214. Elle a saisi le préfet de Lyon pour sévices graves et demande une inspection de l'établissement.
Aujourd'hui, il est hors réglementation, il est hors la loi. Donc au moins que le préfet s'assure que les conditions d'élevage à l'intérieur de cet établissement soient conformes à la réglementation.
Contactée dans la matinée, l'entreprise qui exploite la porcherie bourguignonne n'a pas donné suite. La castration à vif des porcelets sera interdite d'ici 2022. D'autres pratiques sont tolérées, comme le claquage des porcelets et la coupe des queues à vif. L214 réclame leur interdiction.
Isabelle Sorante et Corinne Pelluchon, vous avez donc ces images en partage, on peut le dire. Quand on investit ces lieux-là, hein, de production ou les abattoirs, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous voyez des choses, vous percevez des choses, vous êtes au contact aussi de ceux qui y travaillent. En même temps, on sent que il y a une souffrance aussi chez les porchers, parce que s'ils font pas ce travail, quelqu'un d'autre le fera. On leur fait clairement comprendre. Et en même temps, ils vous donnent presque une sorte d'autorisation, Isabelle Sorante, à témoigner pour eux.
Oui, parce qu'en fait, moi, mon enquête, elle a duré 9 mois. Donc, je suis rentrée totalement, c'est là pour ça que je parle de magie, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un échange de regards avec quelqu'un, et une sorte d'amitié. Et on s'est fait confiance. Donc, 9 mois, pendant lesquels je n'étais pas infiltrée, c'est-à-dire, j'allais pas travailler tous les jours pendant 9 mois, mais je dirais, je passais 3-4 jours par mois. Ce qui est, en réalité, on s'endurcit vite. Donc, pour tenir, donc ça peut pas être beaucoup plus, et c'est comme ça un peu échelonné. Là, dans le reportage, on entend les sons. Moi, j'ai pas rencontré de gens, je dirais, cruels ou sadiques. J'ai rencontré des gens qui, en fait, pour tenir, parce qu'en fait on les prive de cette magie sympathique dont on parlait tout à l'heure. Donc Marguerite Yourcenar, vous l'avez citée dans les Mémoires d'Adrien, elle dit j'appelle magie sympathique, elle le met en italique en plus dans ses notes, donc c'est quelqu'un d'extrêmement méticuleux si elle met le mot magie sympathique en italique pour dire que ça s'appelle magie sympathique, la faculté de se mettre à la place de l'autre, c'est qu'il y a bien quelque chose de magique. Hein, il faut le dire, même si ça gêne, c'est la vérité. Donc en fait c'est peut-être notre trésor là. Magie sympathique, cette faculté de bouger, de pas être complètement cloué à une identité mesquine. Donc c'est ça qu'on dérobe, je dirais, aux travailleurs, en fait, aux salariés, dans cette structure-là. Ils essayent de le récupérer. C'est-à-dire, très souvent, ils vont avoir des activités bénévoles à côté, comme si ils avaient cet instinct que ce qui leur était dérobé par la structure, et je dis par la structure parce que ce qu'il y a d'affreux, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il y a peut-être des actionnaires qui essayent de rationaliser, comme on dit, de simplifier, comme on dit. Et donc...
En tout cas, ne pas s'attacher, laisser son âme au vestiaire, considérer ce vivant comme des machines, c'est surtout ça, parce qu'il ne faut pas de magie sympathique.
Oui, la magie est interdite.
Donc certains, en fait, s'investissent ailleurs comme pompiers volontaires ou bénévoles, parce que c'est leur soupape, et puis ben, d'autres deviennent comme des machines.
D'autres craquent, en fait, en général. Moi, en tout cas, ce à quoi j'avais assisté, ou ce qu'on m'avait raconté, c'est que les personnes qui sont, entre guillemets, sadiques, ne tiennent pas longtemps. Et en fait, c'est très difficile de rester équilibré dans un monde déséquilibré. Et finalement, oui, je suis acceptée parce que je vais être le romancier de la tribu, je vais être celui qui va raconter, celle qui va raconter. Et il y a quelque chose de tribal qui se noue entre nous, parce qu'on n'est que 5 êtres humains et il y a 20 000 animaux là. Donc Corinne parlait tout à l'heure de miroir, mais c'est vrai, c'est un miroir. C'est-à-dire que ce que vont chercher les ermites dans l'Himalaya, qu'est-ce que c'est ? C'est un miroir non-humain. C'est voir le non-humain en nous, au bon sens du terme, c'est-à-dire ce côté identité plus vaste. Et là, tout d'un coup, on le voit, je dirais, dans une espèce de mandala infernal, c'est-à-dire qu'on a ce reflet non-humain dans 10 000 pères dieux qui nous disent « regarde le désastre ».
Nous parlez de ces regards, de ces échanges.
C'est inoubliable, ces regards-là.
Parce qu'il faut préciser qu'en 6 mois, les porcelets sont engraissés, alors déjà arrachés à leur mère, hein, oui, donc oui. Les truies qui sont inséminées, etc., en permanence, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus produire, et dans ce cas-là, on les écarte et on imagine qu'on les envoie à l'abattoir, engraissés, emmenés à l'abattoir, donc en fait, ils passent 6 mois, en 6 mois, ils prennent 120 kilos, et après avoir subi l'ablation de la queue, la castration, le limage des dents, les piqûres de vitamines, antibiotiques, etc., etc., c'est ça. Corinne Pelluchon.
Oui, je voudrais rappeler que effectivement, ils s'endurcissent très vite, pour supporter l'insupportable, mais la société aussi s'endurcit et ne veut pas voir en face cette réalité-là. Et je crois que les personnes qui, comme Isabelle, comme moi, mettent le doigt sur cette réalité insoutenable, puisqu'on pourrait tout à fait se passer de cette production industrielle de viande, et on pourrait même se passer complètement de viande et de produits animaliers, tout court. Et je crois que... C'est ça qui est très fou. Je crois que la question animale est très importante en elle-même pour eux, mais elle est aussi vraiment stratégique parce que elle pointe les aberrations d'un modèle de développement qui fait que on va mettre à mort des êtres de manière industrielle et on va condamner finalement aussi les personnes à faire le sale boulot pour que personne naît trop de mauvaise conscience en piquant sa fourchette dans un steak. Donc du coup, voilà, donc je dis ça parce que au-delà du caractère pathétique de ces images que vous rappelez, il y a une réflexion sur notre honte commune. Et ce que, après, moi je vais en tirer, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est quand même de trouver des pistes pour... faire en sorte que dans une démocratie où il y a des intérêts et des points de vue divergents, on arrive quand même à une amélioration substantielle de la condition animale. Et je crois avoir donné des pistes concrètes pour ça, mais je crois que c'est vraiment important. C'est-à-dire que si on pense que non seulement la mise à mort provoquée des animaux est problématique, c'est une question ouverte que chacun peut se poser en son âme et conscience, mais qu'en plus, en raison des conditions industrielles de cette production de viande et de notre poids démographique, c'est une honte commune parce que ce besoin en viande de 8 milliards d'individus, ça ne peut pas être des petites vaches qui courent dans les champs, ça ne peut être que cette production-là. Eh bien, dans ce cas, il faut absolument se donner les moyens concrets de changer les méthodes et d'inscrire la question de l'amélioration substantielle de la condition animale au cœur des politiques publiques et d'en faire même une des finalités de l'État, d'en faire une des finalités de l'Europe.
Même
ce que d'ailleurs la Commission européenne au départ avait imaginé. Mais là encore, ce qui est toujours frappant, c'est ce décalage entre une prise de conscience, puisque personne ne nie ce qui se passe, et la réalité. Et ça, c'est vraiment très fou.
Ouais, même si, en tout cas, on entend parler de l'évolution nécessaire des élevages, alors selon que l'on consomme ou pas de la viande, c'est une liberté, bien sûr, qui reste à tout citoyen.
On ne peut pas appeler ça des élevages. Ces usines de production de viande de porc, en fait, sont le reflet de ce qu'on inflige à la nature en général, aux écosystèmes, à la faune, à la flore sauvage, en sacrifiant tout ça à un modèle de développement. Donc je pense qu'il faut... Alors, on a une empathie sélective avec les animaux, on a une empathie avec nos animaux de compagnie, mais on n'en a aucune pour ceux qu'on ne voit pas vivre cet enfer dans ces usines.
Mais comme je crois qu'il y a quand même une différence entre...
Ça questionne le modèle de développement, en tout cas.
Mais il y a quand même une différence entre la destruction des écosystèmes et la mise à mort, parce que là, il y a quand même des êtres dont... Tout le monde reconnaît les similitudes avec nous, en tout cas la sensibilité, l'individuation, etc. Enfin, en tout cas, le fait d'être un jeu, même si ce n'est pas une conscience représentationnelle, et la mise à mort. Hein. Je crois que la réflexion sur la mise à mort d'animaux qui ont beaucoup de choses en commun avec nous, même s'il y a également beaucoup de différences, ça touche quand même quelque chose de très archaïque. Là, il y a quelque chose dans cette réflexion sur la mise à mort qui mériterait d'être pointé. Et c'est ça, c'est pour ça que les abattoirs, ce n'est pas un lieu banal. Les destructions environnementales sont effectivement aujourd'hui une des conséquences d'un modèle de développement ou d'un système capitaliste, on peut le dire. Ou en tout cas, là, on est quand même dans quelque chose où, d'ailleurs, même dans les pays... même chez ceux qui dénoncent le postcolonialisme, etc., ça a toujours été un angle mort, la question animale.
Isabelle Sorrente, rapidement, je vois que l'heure tourne tellement vite avec vous.
Je voudrais dire malheur à ceux qui sont des variables économiques, malheur à ceux qui sont gérés. Moi, pour moi, c'est pas un hasard qu'il y ait aussi des scandales dans les maisons de retraite, qu'il y ait des scandales pour les plus vulnérables. Dès que les personnes sont plus efficaces économiquement, en fait, ces personnes sont mangées. Voilà, c'est ça qui se passe. Et il faut bien voir que notre manière de penser uniquement en termes de performance, de productivité...
Proactivité, comme vous dites.
Oui, hein, ce vol de la magie. Ce vol de la magie. Il y a Ingeborg Bachmann qui disait « On ne peut voler que ceux qui vivent magiquement et pour moi, tout a une signification. » C'est ça qui se produit encore et encore et encore, exactement comme lorsque les conquistadors ont échangé des colliers d'or contre des perles qui valaient rien. Mais en fait, ce sont les conquistadors qui se sont fait avoir parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'âme qui se jouait et eux, ils se sont dit « Haha, on les a bien eus, on a piqué leur or. » C'est horrible. Voilà.
Alors, goûtons un peu de magie avec votre choix musical, Isabelle Sorrente, si vous voulez bien. Vous avez choisi de nous faire écouter quoi?
Rising Appalachia, qui est un groupe magnifique, et ça s'appelle Resilient, et les paroles sont de la poésie pure, comme toutes les paroles de ce groupe.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
I am resilient, I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. 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 These times are poignant. The winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful. Prayers to the waters, women at the center. All vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, 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 whoa,
Appalachia, hein, qui chante Résiliente. Et c'est vrai que c'est magnifique. Merci pour ce choix musical, Isabelle Sorante. Et c'est la suite du magazine de l'environnement de Cause à Effet sur France Culture. Nous sommes en direct et en partenariat avec le festival Terre et Lettres qui aura lieu du 2 au 5 mai prochain à La Rochelle. C'est les bonnes dates, hein? Xavier Decatur.
Ah ouais.
Oui. Et avec pour thème, pour sa 15e édition, d'autres imaginaires pour mieux habiter la Terre. Nous sommes toujours donc avec vous, Xavier Decatur, président du festival. Isabelle Sorante, je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez Jean-Claude Lattès, L'Instruction. Et Corinne Pelluchon, spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée, professeure à l'université Gustave Eiffel. Et votre dernier livre s'intitule L'espérance ou la traversée de l'impossible, édité chez Rivage. Alors justement, l'espérance, Corinne Pelluchon, parce qu'on a bien, j'ai envie de dire, planté le décor hein, dans cette partie d'émission, mais ouvrons le monde du possible, espérance, imaginaire, comment avancer?
L'espérance, c'est important de voir ce que ce n'est pas. Parce que souvent, on la confond avec l'espoir qui n'est que le souhait de voir son désir personnel se réaliser assez rapidement. Alors que l'espérance, qui est une vertu théologale à côté de la charité et de la foi, a une dimension collective, en tout cas, elle a un rapport. On a un rapport à l'histoire ou au collectif et pas seulement à son intérêt ou à son désir particulier. Et en plus... Et je dirais qu'elle est plus de Jérusalem que d'Athènes, en tout cas chez moi. Ce n'est pas une sorte de consolation où ce qui reste, comme dans la boîte de Pandore, quand tous les maux ont été libérés, et quelque chose qui nous aiderait à supporter une dure réalité. Non, l'espérance, comme dans la Bible, suppose la prise de conscience de la gravité de la situation et même une expérience du mal, une traversée de la négativité. Alors ça ne veut pas dire que, au bout de la négativité, il y a forcément l'espérance. Et on se tromperait si on imaginait l'espérance comme une sorte d'héroïsme, comme une sorte de conquête, comme une sorte de victoire.
Ce n'est pas l'espoir, ce n'est pas l'optimisme. Hein. Vous le dites bien
alors,
dans votre livre, il ne faut pas confondre.
Ce n'est pas l'optimisme qui est le masque du déni. Mmh. Mais ce n'est pas non plus
l'espoir.
Quelque chose qu'on peut projeter. Mmh. C'est une attente, mais indéterminée. Moi, je la définirais comme la capacité à voir en dépit, et le mot en dépit est très important, en dépit du chaos, du présent et de la négativité, de la gravité de la situation, la capacité à déchiffrer les signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait de nouveau faire respirer, qui pourrait de nouveau ouvrir le possible, l'avenir, puisque Le problème, quand on manque d'espérance, c'est que justement, on ne configure plus l'avenir, on ne voit plus l'avenir. On a l'impression que demain sera aussi difficile qu'aujourd'hui ou pire. Et donc, mais ce n'est pas une projection. Et ça, c'est important. Ça veut dire que, sans jeu de mots, l'espérance, c'est la capacité à déchiffrer ce qu'on voyait plus, peut-être parce qu'on ne voyait que le noir, peut-être parce qu'on était dans la projection, peut-être parce qu'on n'était pas ouvert à l'inattendu. Donc c'est l'inespéré, sans jeu de mots.
C'est ce que vous écrivez, hein, l'espérance apparaît de manière inattendue au terme d'une lutte âpre, au cours de laquelle on a cru mourir. Donc ça veut dire... Il faut être revenu de loin, quelque part.
Pas forcément, ah bon, mais c'est vrai que dans les temps actuels, qui sont particulièrement déroutants, hein, on ne peut pas dire qu'ils sont plus durs que d'autres, il y a eu dans l'histoire des drames terribles, mais ils sont déroutants, il y a cette incertitude, il y a cette précarité, et cette prise de conscience aussi de la précarité de notre civilisation. C'est vrai que la crise climatique, qui est trop grande pour nous, met à mal nos certitudes et nous oblige un peu justement à reconnaître que nous n'avons pas toutes les clés en main. Et je crois que ces temps difficiles ont ceci de tout à fait intéressant, c'est qu'ils nous demandent d'abandonner nos faux espoirs, nos illusions et notre tendance à croire que nous allons tout maîtriser et qu'on peut calculer justement les choses. Et c'est quand on abandonne tout calcul, et pour ça, malheureusement, souvent, pour pouvoir abandonner toute maîtrise, toute illusion, toute projection, il faut avoir été frappé, ou en tout cas avoir perdu sa superbe. Souvent, c'est comme ça chez la plupart des humains. Eh bien, quand on a perdu ses faux espoirs, on peut justement arriver à déchiffrer des choses. Et pour revenir à l'anxiété ou à l'éco-anxiété tout à l'heure, c'est vrai que le partage permet de regarder toutes ces expérimentations, ça et là, qui existent et qui ouvrent déjà un avenir, mais qui ne font pas tellement de bruit. Et ça, c'est très important de rappeler que l'espérance, comme Peggy le disait dans son beau texte, qu'il la comparait à une petite fille que personne ne remarque et qui néanmoins entraîne ses deux sœurs, les deux autres vertus théologales, la foi comparée à une mère, à une épouse loyale et la charité à une mère. Donc ça, c'est vraiment l'idée que... Et je pense que notre temps difficile qui s'accompagne de beaucoup d'idéologies qui figent l'avenir, eh bien, est paradoxalement un moment où nous pourrions commencer à parler d'espérance ainsi pensée.
Et puis, vous précisez que cette espérance, c'est ce dont notre âme a faim. Xavier Decateux, sur l'espérance, ou alors sur peut-être ce que la littérature à ce niveau-là peut donner, littérature ou spectacle,
J'ai trouvé, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, passionnément, l'espérance, mais aussi l'éthique de la considération, ou les nourritures encore, qui proposent justement une révolution un peu anthropologique. Et donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est très important qu'on partage, parce que les gens que j'évoquais tout à l'heure, et qu'on retrouve, sont pas des gens qui sont à la quête de compensation ou de consolation. Ce sont des gens qui sont plus heureux que les autres, que ceux qui cherchent à se consoler du mal dont ils souffrent. Et on rencontre plus de joie. Et donc ça, je pense que c'est très, très fort. Une autre chose qui me paraît très importante, c'est la notion d'empathie. Et d'empathie aussi avec les autres, avec les autres humains, mais aussi avec les non-humains. Et on a invité pour le festival, pour la soirée d'ouverture, Bartabas, dont on connaît le travail avec les chevaux, et que de magie et de beauté il réussit à produire. Et Isabelle parlait tout à l'heure du langage. Et il dit justement qu'avec les chevaux, c'est l'invention d'un nouveau langage. Et il fait la comparaison avec les danseurs, avec les violonistes. Il dit le cheval devient l'instrument comme le corps du danseur ou comme le violon du violoniste. Et que le langage des chevaux est très simple, mais il charrie en profondeur dans nos inconscients. Et c'est pour ça que quand on est devant ces spectacles-là, où le cheval est comédien à part entière, comme un humain, on est très ému. Et je pense que c'est ça qu'il faut développer. On a fait des ateliers d'écriture pour faire écrire des collégiens sur cette notion d'empathie avec les animaux, pour qu'ils explorent, parce qu'on peut nourrir son imaginaire en lisant, mais on peut le nourrir aussi en écrivant. Et donc on a fait écrire des choses comme ça sur l'empathie avec les animaux, et je pense que c'est ça qui est important, de cultiver les esprits à travers, à l'école d'abord, ensuite dans les livres, et puis dans des manifestations comme celles qu'on organise.
Isabelle Sorante, vous écrivez cette note 8 dans le livre. Si les animaux ont le pouvoir de nous hanter, n'est-ce pas qu'ils ont une âme? Alors c'est vrai qu'on a reconnu aux animaux d'être doués de sensibilité, hein, tout en restant dans la catégorie meuble, hein, sur le plan législatif, si je ne m'abuse, hein, en tout cas en matière de catégories données aux animaux. De votre côté, vous dites que ce sont des individus. Les animaux ne sont ni nos esclaves, ni nos choses. Ils sont nos proches, nos parents.
Oui, moi je crois qu'ils ont une âme. Et je dis je crois parce que je crois en la magie. Je crois que je suis animiste au fond. Et voilà, je vais le dire, je fais mon coming out. Enfin, je crois que je l'ai déjà fait à travers ce livre. Et quand on commence à voir ça... le monde reprend des couleurs. Si on se rend compte que les animaux ont une âme, il n'y a aucune raison que nous, on décide de les envoyer en enfer, par exemple. Et puis aussi, par rapport à ce que disait Corinne sur comment... Il n'y a pas que la souffrance qui peut nous modifier. Il y a l'ivresse au sens des poètes. Il y a la transe. Moi, je crois que avec les animaux, ça me touche, ce que disait Xavier sur le langage des chevaux de Bartabas, parce que je crois que c'est vrai. Avec les échanges de regards des animaux, il y a une transe, il se passe une poésie, il se passe quelque chose qui du coup nous bouscule et du coup qui fait que on est déplacé. Et c'est la même chose quand on écrit, on est en transe. Et je crois qu'il y a un lien entre la vie sauvage, la vie animale et la littérature et qu'au fond c'est notre part sauvage.
Allez, vous restez avec nous, il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde et nous sommes avec Harold Thibault, correspondant du Monde en Chine, à Pékin, pour parler des conséquences sur les nomades de l'hiver extrêmement dur et rigoureux que vient de connaître la Mongolie. Bonsoir Harold.
Bonsoir Aurélie. Je viens en effet de réaliser un voyage étrange à travers l'est de la Mongolie. En ce début de printemps, la neige a fondu, le paysage est encore sec. En parcourant la steppe, toutes les quelques centaines de mètres, on voit ces carcasses, des chevaux, des vaches, des chèvres, des moutons, qui n'ont pas tenu durant l'hiver particulièrement extrême que vient de subir ce pays d'Asie centrale. Les animaux sont morts là, au milieu de nulle part, le long d'une piste ou près de la yourte des nomades auxquels ils appartenaient. Parfois, les éleveurs ont déposé les carcasses autour de fosses. On en voit alors des centaines superposées. Là-bas, on parle de dzoud, pour désigner ces hivers de catastrophes naturelles. Les températures tombent si bas que les animaux meurent de froid et de faim. Il y a eu des nuits à presque moins 50 degrés dans certaines régions cette année. Près de 7 millions de bêtes sont mortes.
Mais alors quel est l'impact, justement, plus précisément, de cet hiver extrême pour les éleveurs nomades?
Eh bien, j'ai rencontré des familles qui ont presque tout perdu. Une éleveuse nomade, Oyungerel Dolksuren, m'a expliqué qu'elle, son mari et leurs enfants élevaient quelques 400 bêtes avant. Mais il ne reste que 3 moutons, une trentaine de chèvres et 4 vaches. Ils avaient 50 chevaux, mais tous sont soit morts dans le froid autour de la yourte, soit se sont égarés dans le blizzard. Ils ne les ont jamais retrouvés. Leur fils de 25 ans est parti à Oulan-Bator travailler dans un garage où il change des roues. À l'issue des dzouds précédents, beaucoup de familles avaient déjà plié la yourte, l'avaient chargée à l'arrière d'un 4x4 et étaient parties vivre dans le quartier de bidonville qui grimpe sur les collines autour d'Oulan-Bator, la capitale.
Et Harold, est-ce que l'on sait quelle est la cause de ces hivers assassins?
Eh bien, elle est double. Les Mongols avaient coutume de dire qu'il y avait un dzoud tous les 10 ans, mais ils sont devenus bien plus fréquents. Il y en a déjà eu un l'hiver précédent, d'autres avant en 2020, en 2016, en 2010. Un élément est le surpâturage. Après la fin de la planification soviétique en Mongolie, les nomades ont élevé de plus en plus de bêtes pour s'en sortir économiquement, des chèvres à Cachemire notamment. Mais elles arrachent les racines, ce qui accélère la désertification. Il y a moins à manger les années suivantes, les animaux sont plus faibles. Ensuite, il y a le climat. Le pays s'est réchauffé de 2,46 degrés ces 80 dernières années. Les étés sont plus secs, la pluie arrive plus tard, les herbes poussent moins. Quant aux hivers, ils sont devenus très imprévisibles. Des froids extrêmes, des phases de réchauffement. J'ai parlé avec des climatologues qui ont travaillé sur la région. Ils m'ont dit qu'on peinait encore à expliquer pleinement les dynamiques du changement climatique dans cette zone de climat continental extrême, très particulière.
Merci Harold Thibault.
Merci Aurélie.
Et votre article complet et saisissant, intitulé « En Mongolie, un hiver assassin décime les troupeaux des nomades », est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Allez, quelques minutes ensemble, Isabelle Sorante, j'ai envie de me tourner vers vous tout d'abord pour parler de Cochette 98-87. Hein. C'est vraiment cette jeune truie et vous avez échangé ce regard avec elle. Voilà, je ne dévoile pas tout, mais c'est dans votre livre. Est-ce qu'elle est toujours en vous? Parce que vous nous dites qu'elle est à la fois la cochette, l'oiseau englué dans le pétrole, l'escargot écrasé en même temps.
Oui, elle a couru la jeune fille grecque de la Perséphone qui remonte. Elle me hante. Elle me hante et c'est une bonne chose. Tout comme mes ancêtres me hantent, tout comme mes parents décédés me hantent. Eh bien, en fait, je crois que Corée fait partie de mes ancêtres. Elle m'a transformée et je suis heureuse de la porter en moi. Je suis heureuse que mon identité inclue des animaux. Je suis heureuse que mon identité soit multiple. Et qu'elle ne soit pas réductible à une variable économique, je me répète, mais c'est vrai. Et donc, le fait de porter en moi des animaux me donne une richesse et un lien qui me rend heureuse.
Donc vous allez mieux aujourd'hui ?
Je ne sais pas si je vais mieux ou si je perds la raison, mais en tout cas, je peux me connecter à une forme d'ivresse.
Corinne Pelluchon, c'est une question d'identité, hein.
Oui, alors moi, ça m'intéresse beaucoup, cette idée d'une identité plus fluide que ce qu'on appelle d'habitude l'identité, en acceptant des frontières entre les espèces, entre le passé, le présent, le futur. Et ça, bon, c'est magnifiquement dit, cette identité fluide, par Virginia Woolf dans Les Vagues. Mais moi, c'est vraiment une expérience également, même en philosophe, que je fais, sans doute aussi parce que je viens de la phénoménologie, qui ne parle pas en troisième personne, mais revient à la réalité comme réalité vécue. Mais c'est vrai aussi, moi, un de mes concepts chéris, qui vient de Val et de Lévinas, c'est la transdescendance, c'est-à-dire pas l'ascendance vers la contemplation, vers un au-delà, mais la plongée dans justement sa corporéité, où justement on est la conscience de son appartenance à un monde commun plus vieux et plus vaste que soi devient un savoir vécu qui transforme de l'intérieur sa manière d'être au monde et de vivre. Et ça, je crois que l'écriture évidemment redouble cela.
Xavier Decateux, sur la question des animaux.
Eh bien oui, chez les animaux, ça, je pense que la connaissance et la relation avec les animaux nous enrichit, nous nourrit nos imaginaires, nourrit notre personnalité aussi.
Ça peut jouer un rôle sur le devenir peut-être de cette société, en devenir justement la nouvelle société.
Oui, c'est une. Je pense que changer, comme le dit Corinne Pelluchon, il faut travailler le rapport à soi-même, le rapport aux autres, et puis le rapport à l'organisation politique qui fait que les décisions qui devraient être prises ne le sont pas. Mais il faut travailler sur soi-même. Vous avez une phrase que j'aime bien, vous dites « On ne peut pas prétendre réparer à l'extérieur ce qu'on n'a pas réparé en soi-même. »
C'était Etty et Lisou.
Allez, dernière question, Xavier Decateux. Le thème de la saison 16, même si on n'a pas encore vécu la 15, mais bon, du festival, est-ce qu'elle se dessine déjà ?
Non, pas précisément, mais vous savez, on est toujours sur la même question, comment on habite la Terre et comment mieux l'habiter, et pour être plus heureux. Mais il y aura beaucoup de romanciers, beaucoup d'écrivains.
De beaux invités. Merci à tous les trois. Isabelle Sorante a conseillé votre dernier livre, L'Instruction, paru chez Jean-Claude Lattès. Corinne Pelluchon, L'Espérance ou la traversée de l'impossible, c'est le titre de votre dernier livre édité chez Rivage. Et Xavier Decateux, D'autres imaginaires pour mieux habiter la Terre, c'est le thème du festival Terre et Lettres qui aura lieu du 2 au 5 mai à La Rochelle en partenariat avec France Culture et qui fête ses 15 ans. Un rendez-vous à vivre, bien sûr, intensément. Information, bibliographie. Les liens sont à votre disposition comme d'habitude sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Podcast, réécoute, vous y attendent. Merci aussi à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent en direct ou en podcast. Un salut à vous.